T'écoutes beaucoup de podcasts, toi?
À une période, j'ai commencé à en écouter pas mal, notamment des choses que tu m'avais conseillées. Et j'avoue que ça fait très longtemps que j'en ai même. J'ai écouté Writing Excuses, même ça, je l'écoute plus depuis un bon moment. Mais je veux m'y remettre.
Le problème, c'est que techniquement, j'écoute beaucoup de podcasts, mais vu que j'ai toujours 300 podcasts de retard sur mon iTunes, ça me donne l'impression que j'en écoute jamais. Mais d'en avoir 300, ça montre bien que j'en écoute beaucoup, en fait.
Quand même.
Non, mais je dois être abonnée à une trentaine de podcasts. Et le truc, c'est qu'ils sont tous vachement bien, donc j'arrête pas d'essayer d'effacer ceux que j'ai pas eu le temps d'écouter, tout en me disant, oh, mais si j'écoute pas celui-là, ça se trouve que ce sera celui-là qui aura la révélation qui va changer ma vie. Aisha Tyler, elle commence toujours ses podcasts au milieu d'une phrase. C'est-à-dire qu'en gros, t'entends un bout de conversation, ils sont en train de parler du temps, de ce qu'ils sont en train de boire, de la déco, de la clim. Et au milieu de la phrase, la troisième phrase, elle dit, ah, au fait, on enregistre déjà, en fait, ça a déjà commencé.
D'accord.
Et je pense que c'est un bon format et j'aimerais bien m'en inspirer. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé, donc. Souhaiter aux 2-3 personnes ou aux 500 000 personnes qui nous écoutent la bienvenue pour ce nouveau podcast sauvage, accroché au site I Cannot Sit Still. Donc sauvage parce que, en gros, il n'y a pas de calendrier, pas d'obligation, de format, de durée, d'invité. En bref, c'est quand on veut, avec qui on veut, sur ce qu'on veut. Et aujourd'hui, pour notre première édition, donc c'est le duo de choc qui va. Plus ou moins gérer ses podcasts et ce site. Donc, moi, je suis Yael K et je suis accompagnée par Juliette. Bonjour Juliette.
Bonjour à tous.
Voilà. J'aime bien le fait que tu dises tous parce que c'est très
Oui, parce
optimiste.
que je m'attends à ce qu'il y ait...
Foule. Alors, donc, pour toutes les raisons que vous avez entendues au-dessus, si on a regardé la très longue introduction ou que vous entendrez en bonus plus tard, le podcast me semble le format le plus privilégié pour avoir des vraies conversations et être au-delà de discussions stériles et épidermiques qu'on peut avoir sur Twitter ou sur les blogs pour confronter des points de vue différents sur le sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire la culture populaire et ce que la culture populaire dit du monde et de nos vies, en gros, sans vouloir être pédante. Et comme nous avons décidé de parler de ce qui nous intéresse en particulier, nous allons consacrer cette première édition à une de nos obsessions communes, Monsieur Joss Whedon. Juliette, tu es d'accord pour dire que c'est une obsession commune?
Tout à fait.
Ça fait combien d'années que tu es obsédée par Joss Whedon, toi?
15 ans?
Comment tu vis l'obsession de Joss Whedon en 2015?
Moins obsédée que quand j'étais plus jeune. Mais ça reste pour moi, enfin, ce sera toujours pour moi, sans doute, le réalisateur qui me parle le plus et avec lequel j'ai l'impression que, enfin, qu'il y a le plus de profondeur, en fait, qu'il y a le plus de choses à dire et qu'il dit d'une manière qui. Enfin, c'est ça, pour moi, il a fondé mon adolescence, donc à partir de là, je me suis construite en regardant Buffy, en regardant plus tard Firefly. Enfin, c'est vraiment
Fondateur.
fondateur, oui.
C'est rigolo que tu aies utilisé le mot réalisateur parce que pour moi c'est l'auteur fondateur. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été beaucoup plus admirative de son art avec les mots et avec les histoires et avec les idées que avec l'image. Aussi parce que je trouve que c'est un réalisateur au service de ses idées et pas un penseur au service de son esthétique, quoi. C'est la raison pour laquelle je voulais qu'on soit ouverte et open sur notre obsession, c'est parce qu'on va parler de la vague controverse qui tourne autour de lui depuis quelques semaines en fait. Moi, je trouve que mon obsession en 2015, elle a vraiment changé parce que pendant longtemps, fallait expliquer qui était Joss Whedon. Aujourd'hui, enfin, on n'a plus du tout affaire aux mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'avant, quand on en parlait, il fallait, si, c'est un mec important, je vous assure, même si vous n'avez jamais entendu parler de son nom. Et maintenant, c'est. Oui, je sais qu'il est hyper connu, mais ça ne veut pas dire que c'est de la merde ce qu'il fait. On est vraiment avec le problème contraire. Le fait que ces films soient extrêmement populaires, en fait, nous a tout de suite fait basculer dans l'autre camp. Le camp de l'art pop-corn qui n'est plus légitime parce que justement tout le monde le connaît.
Effectivement.
Ce qui est d'une forte ironie, je trouve, mais bon. Donc la controverse quand même, parce que mettons les choses au clair. Alors c'est rigolo parce que c'est comme toutes les controverses de nos jours, les fausses controverses, je veux dire, qui existent surtout sur Twitter et sur les blogs. C'est-à-dire que c'est en fait un enchevêtrement d'idées qui donne l'impression que ça sent mauvais, mais plus on regarde de près, plus c'est difficile de définir exactement quelle est la question, quel est le problème. Mais je pense que ce qui le résume bien, c'est un article d'Allociné. Il y a quelques jours, qui portait le titre Joss Whedon est-il sexiste? Ce qui est une phrase particulièrement surprenante parce que s'il y a quelque chose pour lequel il est connu, c'est d'être féministe. L'article remet en question cette idée et en fait explique beaucoup comment l'œuvre de Joss Whedon est plutôt féministe. Mais la question a été posée pour une raison, elle a été posée par les blogs américains, et elle vient de Twitter et autres forums publics où un certain nombre de féministes se sont insurgées contre le dernier Avengers, et notamment sur le fait que le personnage de Black Widow. Alors, justement, il y a plein de choses qui ont été reprochées, des choses différentes, tout le monde n'est pas vraiment d'accord, mais en bref, ça s'est terminé par un certain nombre d'insultes jetées à Joss Whedon qui le traitent de misogyne. Est-ce que toi, Juliette, t'as entendu parler de cette controverse sur Twitter, sur Facebook et compagnie?
Oui. Principalement sur Twitter, effectivement. Bah, en fait, c'est parti du fait que j'ai appris récemment que Joss Whedon avait quitté Twitter. Et d'après ce que je sais, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc voilà. Mais en voulant gratter un petit peu plus, j'ai vu que beaucoup de gens disaient il est parti de Twitter parce qu'il a été attaqué clairement pour le fait que les gens lui reprochaient d'être sexiste. Et donc du coup, j'ai essayé d'aller un petit peu chercher sur Internet et j'ai vu énormément d'articles enfin, par exemple, là, j'ai sous les yeux un article de IndieWire où il y a une ex-fan qui fait an open letter to Joss Whedon pour dire à quel point elle est déçue du fait qu'il soit devenu sexiste. Donc voilà.
Alors, est-ce que l'open letter parle de Black Widow en particulier?
En particulier, bien sûr.
Bon, ça, on va en parler, donc on va faire une section après avec plein de spoilers sur Avengers 2. Donc, là, on en parlera précisément de ce qui est reproché au film et ce qui est reproché au personnage. Mais moi, je voudrais d'abord parler du truc fou qui est que quand tu fais une recherche comme ça sur Internet, en fait, il y a une telle culture de reporter, en utilisant un anglicisme, mais de rapporter l'indignation de la blogosphère, que en fait, si tu tapes Whedon sexiste, tu vas tomber sur 50 000 liens, dont la plupart seront des pseudo-articles sur des pseudo-blogs ou même des trucs de news institutionnels, qui en gros ne font que dire. Quelqu'un sur Internet dit que Joss Whedon est sexiste.
Et même, ce qui est pire, des artistes qui légitimement déconstruisent le fait qu'il est sexiste prennent comme titre des titres du genre est-il sexiste, est-il antiféministe? Du coup, si on va pas chercher plus loin, si on va pas lire les liens en question, bah ça entretient ça le fait qu'on pense qu'il y a une réelle polémique et qu'il y a un vrai problème.
Bah, en plus, enfin. Moi, je voulais en parler particulièrement de ça parce que Joss, bien sûr, ça m'intéresse et ça m'interpelle, mais au-delà de ça, parce que c'est un truc qui m'obsède depuis plusieurs semaines, parce qu'on n'arrête pas de voir ce phénomène systématique de cycle entre quelqu'un généralement, en tout cas d'un point de vue américain, progressiste de gauche, qui a dit un truc qui ne plaît pas à une frange plus radicale, d'activistes. Qui, en gros, du coup, l'attaque sur Twitter et s'est repris partout. Et ensuite, ça devient un fait. C'est-à-dire qu'une opinion n'est pas remise en question. Ils déconstruisent pas justement de quoi on parle. Ils disent juste, il est misogyne, il est raciste, il est antisémite, et compagnie, et compagnie, et compagnie. On l'a vu quand le remplaçant de Jon Stewart aux États-Unis a été annoncé, Trevor Noah, il y a un mois et quelques, où tout d'un coup, sur ces 8 900 tweets, il y en avait 6 qui étaient des blagues un peu douteuses, et il a immédiatement été labellisé, étiqueté misogyne et compagnie. Moi, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est que la misogynie sur Internet et ailleurs existe, bien entendu, et le racisme aussi. Ce qui m'embête, c'est de voir tout d'un coup monter en épingle une opinion vraie ou fausse, mais qu'il n'y ait pas de discussion sur est-ce que c'est vrai ou faux, qui est juste une discussion sur est-ce qu'on doit boycotter un tel, est-ce qu'il a quitté Twitter à cause de ça. Enfin, en fait, on parle pas de la substance.
personne ne remonte plus jamais à la source.
C'est rigolo parce que c'est clairement un truc qui préoccupe beaucoup les Américains en ce moment parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont écrites. Enfin, en fait, Slate notamment a fait un espèce de gros truc sur leur site, le site américain, qu'ils ont appelé l'année The Year in Outrage. Donc en fait, en gros, ils ont pris la problématique de l'indignation et ils ont pris chaque jour de l'année en expliquant qui était indigné de quoi ce jour-là. Et c'est absolument fascinant parce qu'il y a effectivement 365 jours. Et moi, ce qui me tue, c'est que, enfin, il y a vraiment des raisons d'être indigné dans ce monde, quoi.
Ah oui, ça.
Mais surtout, il y a vraiment des raisons de parler de misogynie. Alors, du coup, revenons un petit peu parce que Joss Whedon, c'est particulièrement intéressant qu'il soit accusé de sexiste parce que, comme on le disait, il a une réputation de féministe. Après, ça ne veut pas dire qu'il a une relation si simple que ça avec les activistes féministes. Sachant que quand je dis activiste féministe, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, notamment les gens qui écrivent sur Internet. Alors, revenons un petit peu sur cette histoire. Donc, on part du principe que Buffy, c'est le girl power, donc c'est féministe. Maintenant, ça n'a pas toujours été quelque chose d'aussi évident que ça. Juliette, est-ce que tu as le souvenir, toi, des critiques misogynes qui ont été faites par rapport à Buffy? Enfin, justement sur la misogynie de Joss Whedon dans Buffy, enfin.
Bah, il y avait beaucoup la critique des gens qui regardaient quelques épisodes en passant et qui avaient vraiment cette image d'une blonde à forte poitrine, habillée avec des jupes très courtes et qui, nécessairement, c'était très sexiste parce qu'il fallait que ce soit la jolie fille du lycée.
Ouais, moi j'ai toujours envie de leur dire bienvenue dans le monde de la télévision, quoi. Enfin. Genre, bon, passons. Donc, ok, on est d'accord. Moi, il y avait tout un truc aussi à partir de la saison 4 sur le fait que Sarah Michelle Gellar était trop maigre. Et parce qu'elle avait beaucoup changé physiquement entre la saison 3 et la saison 4. Je pense que quand tu es une actrice à Hollywood et que tu fais moins d'1m60, si t'es pas hyper maigre, c'est mort. Je suis pas en train de dire que c'est un exemple à suivre, mais en tout cas, d'un point de vue purement pragmatique, je peux comprendre. Alors, il y a tout un tas de trucs qui ont été dits aussi par rapport à Firefly sur le fait que, y ait un personnage qui soit une prostituée.
Ah, d'accord. Ça, j'ai moins entendu, j'avoue, effectivement.
Ensuite, il y a la question de Dollhouse, dont le sujet principal est en fait la prostitution, de façon métaphorique. C'est rigolo parce qu'en même temps. Enfin, il y a aussi après une lecture raciste de Buffy qui dit que Buffy tue les vampires, que les vampires représentent les noirs américains et qu'eux, ils sont tous blancs. Et voilà. Toute lecture est possible. Moi, ce que je trouve vraiment passionnant par rapport au travail de Whedon, c'est parce qu'il est. Enfin, il y a aussi une lecture fasciste qui peut être faite de Buffy. Il y a plein de choses qui peuvent être faites de Buffy et de Firefly et d'Angel et de
Attends,
Dollhouse.
c'est la prérogative des grandes œuvres, c'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux d'interprétation possibles que on ne peut pas dire ça d'œuvres creuses comme, je sais pas, je pense à Charmed ou des séries qui se faisaient à l'époque. En même temps, il n'y a pas de polémique parce que clairement, il n'y a pas de fond.
On est d'accord. Moi, pour moi, dès que ça se rapproche de l'humain, dès que ça se rapproche d'un vrai questionnement de la condition humaine, ça devient compliqué. Et parce que c'est compliqué, il y a multiples interprétations. Je suis entièrement d'accord. Moi, je pense que plus tu parles, et surtout que moi, ce que j'ai toujours aimé dans le fait d'être fan de Buffy, c'est que contrairement à beaucoup, beaucoup d'autres séries, quand tu es fan de Buffy, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec les autres fans de Buffy sur l'interprétation de ce que Buffy fait, les choix qu'elle fait, les autres personnages, la rédemption ou pas de certains personnages. Justement, ça reste compliqué, ça reste discutable.
Tout à fait, c'est très humain, c'est très proche de. Il n'y a pas de. C'est pas une série moralisatrice qui nous dit comment les choses doivent se passer.
Non.
C'est aussi ambivalent que nous le sommes tous.
Bah, et en même temps, avec une forte éthique symbolique. Mais ce qui est au cœur de l'éthique de Whedon et de toutes ses œuvres, c'est justement la remise en question. C'est le fait, est-ce que je suis sûre de ça? C'est la question qu'elle se pose. Est-ce que je suis sûre que les vampires sont tous méchants? Est-ce que je suis sûre que la magie est une bonne idée? Est-ce que je suis sûre que. Voilà. Et c'est rigolo, parce que moi, j'ai toujours, par rapport à Alias, à aucun moment, quand tu regardes Alias, tu te demandes ce que Sydney doit faire. C'est
Non,
toujours
effectivement.
évident. Et du coup, bien sûr, parce que tu n'es pas sûr, et ben oui, c'est vos interprétations. Et au-delà de ça, Whedon a tendance à donner la parole à ceux avec qui il n'est pas d'accord. Il y a une super vidéo qui existe quand on lui a donné le prix humaniste par la chapelle humaniste de Harvard. Il y a un question-réponse d'une heure et demie qui existe en ligne. Je mettrai un lien sur le site. Et d'abord, il passe une vidéo, parce que là, donc la chapelle humaniste de Harvard, le principe, c'est que dans les grandes universités, il y a des chapelles pour chaque confession. Et la problématique, c'est que quand ils ont commencé à voir qu'il y avait un certain nombre de gens qui ne croyaient pas enfin, qui n'étaient pas affiliés à une religion spécifique et qui ne croyaient pas en Dieu, ils n'avaient pas de chapelle.
D'accord.
Et donc, ils ont créé la chapelle humaniste, qui est donc un lieu où les athées et les agnostiques se retrouvent. Et ils ont commencé à créer un prix à l'humaniste de l'année, et ils l'ont donné à Salman Rushdie la première année et à Joss la deuxième année.
D'accord.
Et en fait, au début, il passe une vidéo où il montre tout un tas d'extraits de son œuvre où quelqu'un nie l'existence de Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que la première chose que Joss dit, enfin une des premières choses qu'il dit quand il prend la parole, parce qu'il fait un petit speech d'une quinzaine de minutes, et ensuite il y a un question-réponse qui est passionnant. Parce que c'est en bref, ça parle de ces problématiques vis-à-vis de la religion. Donc c'est bien parce que là, on parle pas de misogynie, mais je trouve ça intéressant de voir comment il traite cet autre sujet hypersensible. Et il dit, tous les extraits qu'on vient de vous montrer, généralement la réplique d'après est un argument à l'encontre de cette idée. Exemple typique, quand Angel, dans la saison 2, dit à Kate que, en gros, s'il n'y a pas de force universelle, si rien n'est prévu, si rien n'a de sens, alors tout ce qui a du sens, c'est ce qu'on fait. Kate, juste après, lui dit que elle croit parce qu'il a réussi à rentrer chez elle et lui sauver la vie alors qu'elle l'avait jamais invité chez elle. Donc au moment où Angel professe son agnosticisme, Kate lui dit que elle croit. Et en gros, c'est classique. Et c'est vraiment quelque chose, c'est important pour lui de donner parole à l'autre point de vue. Et donc je trouve ça tellement, tellement cruel de l'insulter en le traitant de tous les noms, juste parce que il n'a pas fait exactement ce qu'on voudrait faire.
Non. Et ce qui est d'ailleurs le propre de la plupart des grands auteurs, enfin, je suis toujours fascinée, moi je suis plus proche du milieu de la littérature, notamment de la littérature de l'imaginaire, et je suis toujours extrêmement perplexe quand je vois à quel point des auteurs peuvent être attaqués parce que leur personnage s'exprime d'une certaine façon. C'est-à-dire quand il y a je sais pas, on suit un groupe de 10 personnages, s'il y en a un sur le lot qui est raciste, l'auteur est qualifié de raciste. Alors qu'il y en a 9 autres qui ne le sont pas.
Et surtout que ça peut être une dénonciation.
Ben voilà, tout à fait. Enfin, c'est ça. C'est les gens se basent sur le non, ont de moins en moins de filtres entre ce que les personnages sont et ce que l'auteur, comme si chaque personnage était la stricte représentation de la voix de l'auteur. Alors que la richesse d'un auteur et son intelligence, c'est d'être capable justement de faire une multi-représentation du caractère humain.
Mais en plus, moi, ce que je trouve. Enfin, tu as utilisé le mot filtre, et c'est exactement ça. Il n'y a pas de filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre non plus dans la façon dont les gens réagissent et l'expriment. Alors, moi, j'en ai assez de cette idée, oui, c'est la faute de Twitter. Non, c'est pas la faute de Twitter. Twitter, c'est aussi une source fascinante du climat. C'est la faute du fait que la pensée critique n'est plus quelque chose de naturel, quoi. Ça n'a jamais été quelque chose de naturel. C'est le propre de la pensée critique de ne pas être naturel. Mais on prend plus ça au sérieux, juste de dire. Quel est le contexte? Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est la source? Enfin, je veux dire, le nombre de fois où on met quelque chose, où je vois passer un truc sur Facebook complètement scandaleux, et tout le monde hurle au scandale, et ensuite je vais chercher, je dis, mais ça vient d'où cette image? Ça vient d'où ce propos? Et je me rends compte qu'en fait, c'est une mauvaise interprétation, mauvais contexte, mal compris, mal Photoshop. Voilà. Récemment, il y a eu une photo, je sais pas si tu l'as vu, c'est une pub où tu vois un homme noir en costume et qui a un sourire et une partie de son visage et comme un bout de l'affiche est arraché et en dessous il est blanc et il y a écrit tout le monde est normal à l'intérieur.
Oui, j'ai entendu parler de cette polémique qui était une retouche, je crois, d'une réelle.
Et en fait, le truc, c'est que c'est passé partout sur Internet où les gens disent « Mon Dieu, mais c'est raciste, comment on peut oser dire un truc comme ça? C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. » Avec tout un tas de gens qui excusent « Ouais, mais peut-être qu'ils s'en rendaient pas compte, mais quand même, ils ont voulu faire bien, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » Et moi, je suis dit, elle dit « Mais c'est quoi ce truc? Qui a fait ça? » Et je suis, et en bas de la photo, tu vois un sigle. Et donc, je suis allée chercher sur Internet et j'ai trouvé, en fait, c'est une campagne publicitaire. Donc, qui ne ressemble pas à ça, parce que dans la vraie affiche, le visage en dessous n'est pas un visage blanc, c'est le même visage, mais sans le sourire. C'est une, pour une boîte de boulot d'intérim, et où il y a écrit, en gros, quand vous faites des commentaires racistes, il a beau sourire, il rigole pas à l'intérieur. Et il y a le même avec les commentaires homophobes et les commentaires sexistes, avec un homme et une femme.
D'accord.
Et c'est, en gros, une boîte d'intérim qui dit « c'est pas parce que vous êtes en intérim qu'on peut vous traiter comme de la merde ». Enfin, ça, j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée de la pub. Et un gros malin est allé retoucher le truc et mettre un faux slogan au-dessus. Et là, tout le monde s'énerve contre le racisme. Moi, enfin, il faut aller regarder de quoi on parle.
Ah oui, moi je fais plus confiance à aucune chose que je vois sur Facebook. Enfin, c'est pareil, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable en cherchant un petit peu de me rendre compte à quel point les choses étaient retouchées, mises en forme différemment. Enfin, c'est incroyable.
Et du coup, ça m'amène à l'autre controverse d'Avengers, qui est les propos de Jeremy Renner et de Chris Evans. Est-ce que tu as suivi ce truc-là?
Ah
Donc,
oui.
moi, ce que j'ai vu partout tout d'un coup sur Twitter, c'est Renner dit que. Enfin, non, j'ai lu en français. Renner dit que Black Widow est une salope et Evans rétorque que c'est une pute. Donc Jeremy Renner qui joue Hawkeye et Chris Evans qui joue Captain America. Ok. Ensuite, ce qui a empiré les choses, c'est quelques heures plus tard, ils ont fait des excuses publiques, sauf que l'excuse de Jeremy Renner, c'était en gros, je m'excuse que vous soyez senti blessé par un truc que j'ai dit sur un personnage de fiction. Ce qui n'est pas la meilleure excuse qu'on puisse faire. Les deux Renner et Evans, c'est un peu les party boys du groupe. Ils sont, à mon avis, ils sont un peu cons d'avoir dit ça comme ça. C'est un manque de respect, c'est pas cool. Voilà. Maintenant, le contexte change quand même pas mal ma vue des choses. Le contexte, c'est une interview d'un journal anglais qui veut absolument avoir leur opinion sur avec qui Black Widow devrait être. Avec la question, oui, mais quand même, dans le film d'avant, on avait l'impression qu'elle était intéressée par Hawkeye, donc le personnage de Jeremy Renner, puis aussi par Captain America, mais pour d'un coup, maintenant, elle est intéressée par Hulk. Oui, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et donc, selon moi, devant le ridicule absolu de cette question, Monsieur Renner a souligné que c'était ridicule en disant, bah, je sais pas, c'est probablement une salope, non? Ce qui est stupide à dire devant une caméra, mais pour moi, c'est une réflexion sur le.
Sur la stupidité originelle de la question.
Absolument, en disant, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et ce à quoi Evans répond, ouais, c'est ça, en fait, c'est une pute. Mais une fois de plus, c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors, une fois de plus, ils ne comprennent pas parce que c'est des stupid boys que ces mots-là sont dommageables et que les utiliser est problématique parce que ça renforce des stéréotypes. Bien entendu, on est d'accord là-dessus. Mais le stéréotype, il est renforcé par le putain de journaliste qui. Je crois que c'est une journaliste qui n'a pas le sens que peut-être il y a d'autres trucs à dire sur Black Widow qu'avec qui elle a envie de coucher. Toi, ça t'avait choqué, quand t'en as entendu parler, t'as vu le truc, t'as pensé quoi? T'as pensé, oh, quelle bande de salauds!
Je suis pas énormément sur les réseaux sociaux et je crois que j'ai vu directement en fait la réponse à la question en fait. J'ai vu que le truc originel dès le début en fait. J'ai pas beaucoup suivi le début de la polémique.
D'accord. Donc toi, t'as vu quand tu dis le truc original, tu veux dire
C'est ça, l'interview de départ et des gens qui expliquaient enfin le contexte originel en fait.
Tu as de la chance si tu suis les bonnes personnes sur Twitter. Non mais après voilà. Alors moi, une fois de plus, mon problème c'est il y a des raisons d'être indigné. Il y a des raisons de se poser des questions. C'est exactement au même moment sur Twitter, il y avait le truc qui traînait sur le carnet de santé des Bouches-du-Rhône qui montrait la photo de deux enfants, un petit garçon qui sourit et qui montre comment il veut être grand en mettant la main au-dessus de sa tête, et une petite fille qui baisse la tête et qui se mesure le tour de taille. Donc le même jour en France, dans l'article des Inrecuptibles, il y a une citation d'un type qui a écrit un papier sur le Figaro Vox Ou quand même, il dit, au nom de quoi récuser le plaisir que vous offre une petite fille déjà attentive à sa taille et un petit garçon investi par l'envie de grandir? Conviendra-t-il bientôt de s'excuser parce qu'on prononcera homme ou femme? Je veux dire, vous voulez vous indigner, les gars? Il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi s'indigner. Et le fait qu'on s'indigne, et en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est cette espèce de schéma qui se répète systématiquement, où c'est les radicaux de gauche qui attaquent les pas assez radicaux de gauche et qui ne se parlent même pas de ce qui se passe de l'autre côté. Alors je sais que je devrais peut-être pas être dans le clivage gauche-droite, mais malheureusement, pour ces questions, encore traditionnellement, on a un clivage gauche-droite. Même si je pense qu'à mon avis, d'ici la prochaine génération, ça va changer. Les problématiques vont redevenir, je l'espère, économiques. Parce que en réalité, le vrai clivage, il est là. Mais bon, passons. Ce truc de décider de prendre et de s'attaquer contre le film de Marvel qui donne un personnage féminin le plus fouillé pour parler de misogynie, enfin un personnage féminin, pardon, deux personnages féminins, voire quatre personnages féminins, les plus intéressants, les plus fouillés, pour cracher sur la misogynie des films Marvel, alors que dans tous les autres, il n'y en a pas assez. Je veux dire, c'est... Eh bien, je... Après, DC, ils ont d'autres problèmes. Et malgré tout, Lois Lane et Selina Kyle, dans le dernier, sont quand même plus intéressantes qu'elles ont été dans tous les films de super-héros précédemment, notamment parce que pour une fois, elles ne sont pas assez connes pour ne pas savoir que le super-héros et le mec, c'est la même personne. Merci les années 2010. Il leur a fallu le temps. Mais bon, alors du coup, maintenant, je voudrais quand même pour parler un petit peu d'Avengers 2 et nos personnages féminins dedans, et notamment de Black Widow. Alors, c'est là qu'on va faire le passage spoiler alert, donc spoiler alert. Parlons d'Avengers 2. Toi, t'en as pensé quoi de Black Widow?
Ça m'est pas venu une seule fois à l'esprit en regardant le film, en tout cas, qu'il y avait un problème de sexisme par rapport à elle. Je trouvais que c'était une femme forte, qui a ses propres opinions et qui les assume complètement. J'ai trouvé qu'elle était assez contrastée, peut-être pas suffisamment, mais d'un autre côté, j'ai trouvé qu'aucun des personnages n'était suffisamment, à mon goût, fouillé, parce que c'est un film choral, il y a un tel nombre de personnages à l'écran en même temps que chaque personnage n'a qu'un temps déterminé de passage à l'écran. Du coup, bah forcément, on ne peut pas les fouiller autant qu'on pourrait le vouloir.
Et puis surtout, c'est un film d'action, donc il y a énormément de temps
Voilà, c'est
donné à
ça, il y a
l'action.
énormément de scènes d'action de toute façon. Mais non, j'ai trouvé que c'était un personnage extrêmement intéressant. Je trouve qu'on sent on sent la profondeur du personnage, en fait. Et c'est très justement fait. Du fait même qu'il y ait si peu de temps pour le traiter. C'est-à-dire qu'on sent dans sa manière de jouer, dans son discours, le passif. Moi qui connais pas très très bien les films Marvel, et je peux pas dire que je les ai tous vus et que du coup j'ai son historique, je sentais derrière les fêlures du personnage et son histoire. Donc.
Alors déjà, je te rassure, au niveau de l'historique, les seuls films qui en parlent, c'est bien sûr Avengers et
D'accord.
Avengers 2, parce que le film d'Iron Man dans lequel elle apparaît ne parle pas de son passé, et Captain America fait entendre le deuxième, dans lequel bah c'est le deuxième personnage le plus important du film, fait entendre, sous-entendre des choses, mais on n'apprend rien. On apprend dans le premier et on apprend dans le deuxième Avengers. Parce que bien sûr, la personne qui s'intéresse le plus à Scarlett Johansson. Enfin, au personnage de Scarlett Johansson, c'est Joss Whedon, notre ami misogyne de service. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que le côté femme forte, moi, ça me pose maintenant problème. C'est un truc que je disais avant, qui me dérange de plus en plus, pour la simple raison qu'en fait, ça limite autant le personnage féminin que dire qu'elle doit être faible. Tu vois, elle doit être forte. C'est aussi problématique. Elle doit rien être. C'est un peu le principe d'un personnage. C'est que si on a, avant même de commencer à écrire un personnage, décide qu'il doit être fort ou pas fort, c'est exactement la même problématique que le fait que pendant très 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 longtemps, les personnages afro-américains étaient soit les victimes, soit les méchants dans l'industrie hollywoodienne, et que du coup, on est arrivé à un moment, à un stade où ils ne pouvaient pas être victimes ou méchants parce que cela sous-entendrait qu'on était dans la même tradition raciste. Sauf qu'à un moment, ça limite le personnage autant. Et d'ailleurs, c'est ce que, enfin, la grande phrase qui est répétée souvent, hein, c'est que l'égalité ne sera atteinte pas quand on donnera, par exemple, entre les hommes et les femmes, pas quand on donnera à une femme de grand talent un poste d'importance, mais quand on donnera à une femme incompétente un poste d'importance. C'est ça la problématique. C'est toujours la même problématique. C'est qu'on attend de celui qui n'est pas la norme, qui est, je le répète encore ici, l'homme hétérosexuel blanc, automatiquement, il y a d'autres standards, il y a d'autres attentes, il y a d'autres. On doit savoir faire plus, on doit savoir faire mieux et compagnie. Et donc, l'idée qu'une femme doit être forte pour participer à des super-héros. Alors, en plus, c'est rigolo parce que pour le coup, Black Widow, c'est vraiment ça. C'est elle a vraiment, c'est la plus efficace et la plus terrifiante avec le moins de pouvoir. Mais je trouve que c'est pas assez en fait. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit aussi vulnérable, qu'elle ait aussi des complications, des problématiques, et c'est exactement ce que fait le film. Et c'est exactement ce qui est reproché au film. Ce que toi, t'as lu dans la fan letter à Joss Whedon, c'était quoi qu'il reprochait à Black Widow?
Principalement la question la remarque qu'elle fait sur le fait qu'elle puisse pas avoir d'enfant et que c'est son et que c'est considéré, enfin la personne lit ça comme le fait que une femme doit forcément avoir un enfant, que c'est forcément comment dire, son objectif dans la vie, et que c'est ce que Joss Whedon a voulu dire, et que du coup le fait de sous-entendre ça, c'est extrêmement antiféministe.
Je trouve ça, donc c'est exactement ce que j'ai entendu aussi le plus souvent. Je trouve ça d'une absurdité qui frise le ridicule. Déjà parce que une fois de plus, poser une question n'est pas, enfin, c'est perdre toute nuance. De dire, je suis désolée, si tu as été stérilisée de force à l'âge de 18 ans pour devenir une machine à tuer, je trouve ça normal que ce soit traumatisant. Ça ne veut pas dire que tu aurais voulu avoir des enfants automatiquement. L'idée de dire que si la maternité fait partie des choses auxquelles je pense dans ma vie, ça veut dire que je ne suis pas une féministe et que je ne suis pas une femme forte, c'est terrifiant.
Complètement stupide, oui.
C'est d'autant plus terrifiant que ça revient au problème de base, qui est que de considérer que les valeurs, entre guillemets, féminines sont négatives. La question que moi j'ai envie de poser, c'est pourquoi tous ces maîtres ne se posent pas de questions sur le fait d'avoir des enfants? C'est une problématique universelle auquel les mecs devraient plus penser. Ça ne veut pas dire que nous, on doit arrêter d'y penser. Ça ne veut pas dire non plus que c'est une obligation pour tout le monde d'avoir des enfants, mais le fait d'avoir été mutilé avant de pouvoir se poser la question par une organisation tyrannique et complètement cruelle. N'a rien à voir avec le fait de vouloir forcer ce Black Widow à avoir des enfants. Enfin, je veux dire, faut remettre. Et surtout, le problème, c'est ça, c'est que si on est hypersensible comme ça et si on perd toute nuance, on ne peut plus rien parler de rien.
Ah oui, non, ça c'est sûr.
Et justement, c'est important de parler des problématiques de maternité parce qu'on arrive dans un mode de féminisme où, en gros, on arrive à mettre d'un côté, enfin aux États-Unis c'est un gros délire, mais je pense que ça existe en France aussi, où on a d'un côté celles qui défendent leur droit à avoir des enfants et à s'occuper de leurs enfants, et de l'autre côté celles qui veulent avoir une carrière. Et à un moment, je suis là, mais on devrait tout être du même côté, quoi. Parce qu'en réalité, tout ça veut dire quoi? Veut dire, tu es une femme, donc tu dois sacrifier quelque chose et tu dois l'assumer. Et je trouve ça complètement absurde. Mais on arrive toujours au problème que on tape, on finit toujours par trouver un moment le moyen de taper sur une nana.
Oui, non, quoi qu'il arrive. Dans ce cas-là, je veux dire, que dire du personnage de Hawkeye qui a une femme et des enfants et qui rentre. Enfin, ça aurait été Black Widow à sa place. On aurait dit quoi? On aurait dit, oh, une femme faible qui veut s'occuper de ses enfants et rentrer dans son petit couple. Voilà, le fait d'avoir une famille ne rentre pas une seule seconde dans les questions de force et de faiblesse du personnage. Ce serait une femme à sa place, ce serait exactement pareil.
Bah exactement, bah en même temps, le problème, c'est qu'une fois de plus, ça montre, mais moi, ça y est, j'ai pensé que par contre, quand t'es un mec, tu peux te permettre d'avoir une famille parce que t'as une femme qui s'occupe des gamins pendant que tu vas sauver le monde. Mais après, à aucun moment, c'est la prescription de Joss Whedon sur comment il faut vivre sa vie. Joss Whedon montre ce qui existe dans le monde. Captain America passe son temps à parler du fait qu'il croit en Dieu. Joss Whedon est ouvertement athée et il adore quand même Captain America. Voilà, c'est la multiplicité des opinions et des façons de vivre sa vie. Le principe du féminisme, c'est pas de prescrire une façon de vivre plutôt qu'une autre, c'est d'avoir le droit de choisir, de penser, de décider par soi-même et surtout d'explorer. On n'est pas obligé de prendre une décision pour le restant de ses jours. C'est ça qui est fou, quoi. C'est cette... Et surtout, dans... en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on on reproche moins à un film qui montre une version aseptisée et inhumaine d'une femme forte plutôt qu'un film qui pose la question de la pluralité des questions que se pose cette femme forte. J'ai la question de Black Widow dans le Avengers 2, qui est la question de tous les autres personnages d'ailleurs pratiquement. C'est une question identitaire qui est quelle vie je veux avoir, qui je veux être. J'ai clairement Tony Stark, il en a marre d'être un super-héros. Clairement, Captain America, il a envie d'une nouvelle identité, il a envie de décider qui il va devenir. Parce qu'il a perdu la vie qu'il aurait jamais pu avoir avec Agent Carter. Donc du coup, voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit « je suis à la maison » dans son truc d'Avengers. La question que se pose Black Widow, c'est « j'ai ce type dont je suis en train de tomber amoureuse. Est-ce que j'ai envie peut-être d'une autre vie ? Est-ce que j'ai... Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai le droit à une autre vie avec tout le mal que j'ai fait dans mon passé ?» Après, ce qui peut être problématique pour certaines personnes, c'est en fait, il y a une juxtaposition dans la conversation qu'elle a où elle raconte qu'elle a été stérilisée et où elle dit, voilà, c'est ça. C'est une procédure efficace, ça permet de se... C'est plus facile de vivre et c'est plus facile de tuer. Une chose de moins à quoi penser. Et elle dit, est-ce que tu penses toujours que tu es le seul monstre ? Et donc ça a été, par certaines personnes, interprété comme elle est un monstre parce qu'elle est stérile. Moi, je pense que non. Elle est un monstre parce que c'est une machine à tuer.
Oui.
Et qu'elle a été, mutilée pour être une machine à tuer. Voilà. Après, le fait même qu'il y ait une ambiguïté, le fait même qu'il y ait une pointe, ou même carrément une grosse dose d'autoflagellation du fait qu'elle ne s'aime pas à cause de ça, qu'elle se voit comme un monstre parce que ça, c'est extrêmement humain. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Mais j'imagine bien que Black Widow, aussi forte soit-elle, vivant dans la société dans laquelle elle vit, de se savoir stérile, bien sûr que ça empiète sur son image d'elle-même. Parce que c'est considéré comme quelque chose de négatif par la société de ne pas pouvoir avoir d'enfant quand t'es une femme. Enfin, c'est pas moi qui le dis. C'est la façon dont c'est représenté. Je veux dire, la première question quand tu vois une femme de plus de 40 ans qui n'a pas d'enfant, tout de suite, c'est « Ah, la pauvre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? What went wrong ?» Donc, je veux dire, c'est pas un délire qu'elle réagisse comme ça. Le Avengers 2, c'est pas l'utopie du monde égalitaire entre les hommes et les femmes qu'il montre. C'est une femme, aujourd'hui, voilà tout ce qu'elle traverse et voilà ce qu'elle vit. Donc moi, je trouve ça hyper problématique. Après, j'ai une de mes meilleures amies qui a souligné que elle, ce qui la dérangeait, c'était beaucoup plus le rapport avec Hulk, dans le fait que c'était un peu la... Je pense que c'est un peu le syndrome Florence Nightingale, c'est la femme douce qui doit dompter l'animal sauvage.
Ouais.
Et amplifié par le fait que dans le 1, il y a une scène assez violente où justement, elle a peur de lui. Et donc le fait qu'elle tombe amoureuse de lui alors qu'elle a peur de lui dans le premier...
Est-ce que ça explique pas des choses par rapport à elle, justement ? Elle se voit, justement, comme un monstre et comme une machine à tuer. Est-ce qu'on l'apprivoise en lui ? Elle s'apprivoise pas elle aussi ? Enfin, est-ce que il y a une part de projection de ce qu'elle est, elle ? Pour moi, c'est pas... ça veut pas dire que c'est nécessairement la femme qui, avec sa douceur, doit dompter le méchant lion. Il y a une sorte de miroir entre les deux. Qui est assez intéressant.
Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il y a un équilibre encore plus que ça, enfin, dans le fait que clairement il l'a dompté, elle, dans le sens où son approche des choses, enfin, de toute façon il le montre dans la façon dont elle est avec lui et dans la façon dont Captain America qualifie son comportement à elle avec Banner, où il dit qu'en gros elle n'est pas des plus ouvertes et des plus... Enfin, c'est quelqu'un de très fermé, et dit, mais avec toi, elle est relaxée, elle est tranquille, quoi. Et ça montre bien qu'il y a un processus qui s'est passé dans l'autre sens, quoi.
Oui, tout à fait. C'est un personnage, pour moi, que je voyais comme un personnage glacial et emmuré à l'intérieur d'elle-même. Le fait qu'elle fasse ce pas vers lui, ça montre une évolution en fait, un empowerment
Mais
très
oui.
important du personnage.
Exactement. Elle s'autorise à avoir des sentiments, elle s'autorise à croire. Elle s'autorise à vivre un truc avec quelqu'un, une connexion, c'est hyper fort. Cette idée comme quoi c'est une évidence. Mais d'ailleurs, c'est rigolo parce que Saturday Night Live, elle était chez Saturday Night Live là, il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un sketch avec un faux trailer de ce que serait le film Black Widow. Et ça devient une comédie romantique. Moi, je trouve le sketch pas très drôle. Il y a deux, trois blagues rigolotes avec genre Fury et Captain America qui sont en train de manger de la bouffe à emporter chinoise avec elle et en train de parler de garçon. Ça va. Mais sinon, en fait, à la fois, je pense que c'est une critique du fait que dans le film, elle tombe amoureuse.
Pour moi, c'est une critique de. C'est en réaction justement à la controverse sur la question de She's a slut, she's a whore. Ils font un. Ils transforment ça pour dire bah voilà l'extrême, c'est ça que vous imaginez que le film serait, quoi.
Ouais, et encore. En fait, je suis même pas sûre de ce qui nourrit vraiment ce truc-là. Mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien de ce sketch. Et en fait, en le regardant, je suis ah ben non, c'est pas très drôle, en fait. Merci. Il y a beaucoup de choses plus intéressantes à dire. Alors, au-delà de ça, il y a d'autres personnages féminins quand même dans Avengers 2. Toi, t'en as pensé quoi des autres?
Moi, je suis extrêmement, extrêmement fan de Scarlet Witch. Bon, parce que j'adore l'actrice, mais parce que je trouve que pour le peu de temps qu'on la voit à l'écran, le personnage arrive. Enfin, tu sens à quel point Joss Whedon est tombé amoureux de ce personnage, en fait. Et a une connexion de manière générale avec Elisabeth Olsen. Mais elle dégage quelque chose d'incroyable. Et pour le coup, c'est un. Voilà, c'est un personnage à part entière complètement. Elle dit très peu de choses et pourtant on sent la force de son passif et sa force et tout ce qu'on peut faire avec ce personnage en fait. Le nombre de niveaux qu'il y a du passé, du futur à venir. Voilà, moi je suis en admiration devant Scarlet Witch.
Alors moi un peu moins, moi j'adore l'actrice, j'adore l'idée, en fait un tout petit peu moins juste parce que c'est tellement le personnage Whedon classique que à la fois du coup on peut en attendre des tonnes de choses, on peut projeter tout ce qu'on a déjà vu qu'il a fait avec d'autres personnages, mais surtout du coup il m'a moins surpris.
D'accord.
Tu vois c'est un peu plus, ouais, oui, je vois bien. Mais j'adore, bien sûr, mais tu vois c'est comme, ouais bon ok, je connais.
Je m'attendais à moins en fait.
Ouais d'accord. Après, il y a un truc rigolo dans. Donc, il y a quatre personnages féminins importants dans le film. Il y a Black Widow, il y a Scarlet Witch, il y a Maria Hill, qui est au départ la numéro 2 de Fury et qui, ici, hein, pendant un certain temps, est la numéro 2 de Captain America, mais probablement a toujours bossé pour Fury. Et Ellen Cho, qui est la scientifique qui sauve la vie de Hawkeye au début et qui ensuite. Participe à, j'ai envie de dire, l'évolution de Ultron. Un truc qui est frappant, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer le test de Bechdel. C'est-à-dire que.
Explique le texte de le test pour
Alors,
les.
sachant qu'au départ, c'est pas un test, hein. Au départ, c'est un comic strip des années 80 qui était juste une blague, mais qui est devenu un terme qu'on utilise. Donc, le comic strip de départ, c'est. Donc, Bechdel, c'est une dessinatrice et une auteure de comics qui parle notamment de la communauté lesbienne. Et donc il y a une page, un comic strip qui s'appelle The Rule, donc la règle, et où il y a deux nanas qui marchent dans la rue, une qui dit à l'autre, tu veux aller au cinéma? Et la première qui dit, bah non, le problème c'est que moi j'ai une règle pour aller au cinéma, je vais voir que des films qui, un, ont au moins deux personnages qui ont des noms, deux, les deux personnages, faut qu'elles aient une scène ensemble, et trois, faut que quand dans cette scène, elles parlent d'autre chose que d'un mec. Et l'autre qui fait, ah ouais, effectivement, ça doit être difficile de trouver un film. Ça dit, bah ouais, le dernier film que j'ai trouvé, que j'ai pu voir, c'est Alien, parce qu'à un moment, les deux nanas, elles parlent de la créature. Donc voilà, donc c'est devenu un truc. Alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un peu utilisé à toutes les sauces, le test de Bechdel, parce que généralement, on se retrouve avec quelqu'un qui dit, ah oui, mais alors dans ce film-là, le test de Bechdel n'est pas passé, mais moi, je m'en fous, parce que c'est quand même un super film, et je trouve ça intéressant aussi de parler des mecs. Enfin, blablabla. La question, c'est pas de critiquer un film parce qu'il passe pas le test de Bechdel. La discussion, c'est regardons l'ensemble de l'industrie, regardons l'ensemble de la production et voyons à quel point le test de Bechdel réussit ou pas. Et c'est ça qui est plus problématique. C'est pas grave s'il y a un film qui parle que de mecs. Le problème, c'est que la plus grande partie de tous les films ne montrent que des points de vue masculins, quoi. en ayant, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu n'as qu'une seule femme, généralement, elle représente l'objet de désir du héros masculin, et donc du coup, elle n'a pas d'existence propre. Dès que tu mets deux nanas qui parlent ensemble, tout de suite, ça change en fait la dynamique du truc. Et effectivement, là, les quelques conversations entre deux nanas sont parfois des conversations indirectes, comme Black Widow et Ellen Cho au début, quand Hawkeye est en train de se faire opérer. Et en gros, quand elle parle, c'est de Hawkeye. Et ensuite, tu as Black Widow et la femme de Hawkeye qui ont 30 secondes de conversation sur l'enfant dont la femme de Hawkeye est enceinte.
D'accord.
En même temps, c'est pas n'importe quelle conversation. C'est Black Widow qui dit « Comment va la petite Natacha ?» Et la femme de Hawkeye lui dit « Je suis désolée, ce sera Nathaniel. » Donc un garçon, auquel Black Widow regarde le ventre de sa copine en disant « traître ». Voilà. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Après, il n'y a pas vraiment d'autres conversations. Scarlet Witch n'a pas de conversation avec Black Widow. Il ne se passe rien comme ça. Mais il y a des fulgurances féministes qu'il ne faut pas ignorer dans le film, qui vont au-delà du fait que les nanas sont fortes. Et notamment, la grande fulgurance, qui est quand tous les mecs se battent pour essayer de soulever le marteau de Thor, et quand ils proposent à Black Widow de tenter, elle répond « I don't need that question answered », qui veut dire « je n'ai pas besoin de réponse à cette question ». Qui clairement veut dire « vous les mecs, vous avez des problématiques de gamins, moi, ça va, merci ».
J'aime énormément cette scène.
C'est super. Ça explique tout, ça résume le truc. Moi, surtout, j'aurais à dire que j'attends l'article que j'ai désespérément cherché sur Internet en anglais comme en français, et peut-être qu'il existe quelque part, et dans ce cas-là, je vous remercierai, les deux personnes qui sont encore en train de nous écouter, de me l'envoyer, qui pose le problème que dans Pacific Rim, il y a un seul personnage féminin qui parle avec le visage face à la caméra. Parce qu'il y a quand même, au-delà du personnage principal, il y a une nana qui hurle de dos à un moment et une combattante russe qu'on n'entend parler que quand elle a le visage masqué ou qu'on voit juste passer de loin. Et que ce seul personnage féminin est mais infantilisé, ridiculisé, traité n'importe comment, et que en plus il arrive au bout de 25 minutes de film quand même. Il y a quand même au début, j'exagère peut-être, mais peut-être entre 15 et 25 minutes de film où il n'y a pas un seul visage féminin qui apparaît à l'écran. Il est où l'article? Clairement, c'est beaucoup mieux de ne pas parler des femmes ou de ne pas leur donner d'espace ou de ne pas parler de leur vie que d'en parler.
Non, mais il y a aussi le fait que... Enfin, je dis ça, j'ai pas vu Pacific Rim, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas d'attente par rapport à ce genre de film. Du coup, ils critiquent pas. Alors que les gens ont tellement d'attente par rapport à Joss Whedon que chaque petite chose est disséquée. Il y a une question de... d'échelle, en fait.
On scrute beaucoup plus le travail de quelqu'un comme Joss Whedon. Et encore, j'ai envie de te dire, moi, je pense aussi que les... quelques pourcents de personnes qui scrutent vraiment le travail font pas tant de bruit que ça. Ce qui fait du bruit, c'est tous ceux qui disent « Ah, on dit que Joss Whedon est misogyne alors qu'avant il était féministe, on va écrire un article dessus.
Ouais. »
Alors que si on critique de misogynie, si on taxe le reste d'Hollywood de misogynie, ça ne dérange personne parce que c'est business as usual. Mmh. Tout le monde s'en fout. Et, non, et puis surtout, il y a effectivement côté de ces quelques personnes qui vont regarder le travail de Joss Whedon en disant « Oui, quand même, Black Widow et tout. » À côté de ça, ils vont pas aller voir Pacific Rim.
Oui.
Mais c'est rigolo parce que Mark Ruffalo, en commentaire à tout ça, il a dit qu'il lui était horrifié par l'absurdité de ses reproches antiféministes. En disant qu'il connaissait bien Whedon et qu'au contraire, de toutes les personnes qui se battaient pour les personnages féminins dans l'univers de Marvel, c'était vraiment... c'était la personne sur qui il fallait compter, donc c'était absurde. Mais à un moment, il dit pour moi, c'est à cause de la frustration. C'est parce qu'il n'y a pas assez de personnages féminins de super-héros, et donc du coup, la frustration crée une espèce de colère qui, du coup, va s'abattre sur n'importe qui. Moi, après, ma théorie, c'est que le premier Avengers est arrivé en 2012 au moment où tout le monde avaient envie de regarder des films de comic books et d'aimer les films de comic books et qu'ils attendaient un truc qui pouvait leur parler à tous et qui soit assez divertissant, assez léger, assez bien fait pour que tout le monde puisse aller le voir ensemble et tout le monde puisse être d'accord. Et qu'il arrivait pile au bon moment et que du coup c'est devenu le standard principal de voilà c'est quoi un film de comic book fun. Et que le 2 arrive au moment où les gens en ont marre des films de comics et que du coup ils n'attendaient qu'une chose, c'est pouvoir détester un truc. Avant même la sortie, c'était impressionnant le nombre de trucs haineux qui traînaient sur Twitter sur Avengers 2 et sur Joss Whedon.
Ouais, non, ça clairement. Déjà, dès la bande-annonce, les gens avaient déjà leur idée du film. Enfin, ils n'avaient même plus besoin d'aller voir le film pour avoir une idée précise de ce qu'ils avaient à lui reprocher.
Et donc voilà, c'est la machine de la machine de la haine qui a toujours existé dans le monde des fans, qui a toujours existé dans le monde des geeks, mais la différence, c'est que maintenant, on a un système de communication hyper rapide qui demande du contenu, et notamment les sites institutionnels ont besoin d'écrire des articles, ont besoin d'attirer les clics, et que du coup, ça crée une espèce d'hystérie générale. Moi, je pense aussi que c'est un truc de génération, hein. Je pense que dans 15 ans, il y aura moins d'indignation systématique sur Twitter.
Oui, je pense que Twitter va devenir critique envers lui-même. Mais pour l'instant, il y a aussi ce côté de l'instantanéité, ce qui fait que tu dis ce qui te passe par la tête et tu peux voir ce que les autres disent instantanément. Du coup, tu te sens légitime dans le fait que la moindre opinion qui te traverse est légitimisée parce qu'il y a forcément quelqu'un quelque part qui pense la même chose. Donc les choses montent en épingle de manière fulgurante.
Et aussi parce que du coup, on arrive très vite dans une situation de conflit. Donc du coup, tu te sens agressé, du coup, tu te défends.
Forcément.
Mais alors, ce qui est très drôle, c'est quand même, les gens parlent sans réfléchir et par contre prennent ce que les autres disent comme des propos calculés et réfléchis.
Tout à fait.
C'est une absurdité absolue. Bon, passons. Moi, je voudrais revenir du coup sur la problématique de Joss Whedon est parti de Twitter et c'est parce que les féministes l'ont chassé. Il y a un certain nombre d'articles qui existent sur le sujet. Et c'est rigolo parce qu'il a donné une interview à BuzzFeed. BuzzFeed qui est clairement un des pires sites en ce qui concerne le colportage de pseudo-ragots sur Internet. Mais il a quand même donné une interview à BuzzFeed où en gros il précise que c'est des conneries, qu'il n'est pas parti de Twitter à cause des féministes. Il a dit en gros en disant ça fait un certain nombre d'années qu'elle m'insulte. Donc pas les féministes en général, mais un certain groupe de gens qui se disent féministes, mais comme il a dit, de toute façon, il a toujours dit que Twitter était un enfer pour lui. Alors pour deux raisons. La première étant qu'on lui demande tout le temps de reprendre Buffy, de faire un remake, un reboot. Et la deuxième, que les gens passent leur temps à lui reprocher de tuer des personnages. Ou en gros, le seul truc qu'il dit, il a donné une interview une fois en disant, mais j'ai l'impression d'avoir fait un peu autre chose que juste tuer des personnages. Mais apparemment, c'est la seule chose dont les gens se souviennent. C'est la seule chose dont on me parle sur Twitter. Et donc, en gros, il a précisé à BuzzFeed, non, j'ai besoin d'écrire et pour écrire, il faut que j'arrête d'être dans l'endroit le plus bruyant que j'ai jamais connu de ma vie, c'est-à-dire
Non, c'est
Twitter.
ça. Et puis j'ai vu aussi qu'il précisait que c'est un boulot en soi. Si tu veux réellement manager, enfin tu deviens ton propre publiciste. Donc c'est un travail qui consomme extrêmement de répondre aux gens, regarder ce qui, enfin penser à la manière dont tu vas rédiger le moindre tweet, vu l'enfer que c'est. Si jamais tu dis pas les choses exactement de la manière dont les gens voudraient l'entendre, ça te consomme tellement d'espace cérébral. Que si tu veux prendre le temps d'écrire et d'écrire des bonnes choses, au bout d'un moment, je comprends le besoin de juste vouloir déconnecter.
Oui, et puis surtout, faut arrêter d'assigner un sens et une controverse et une polémique à n'importe quelle action et propos. Mais surtout, arrêtons de casser du sucre les uns sur les autres juste pour casser du sucre les uns sur les autres. Il y a un moment, c'est. Enfin, moi, je me sens un peu comme Hulk quand je lis un article comme ça. Un article ou que je lis des titres racoleurs, j'ai envie de faire oh, smash, smash Internet. Mais je veux pas smasher mon pauvre petit ordinateur qui ne m'a rien fait. Donc sur ces bonnes paroles, on va vous laisser en espérant que cette première conversation vous aura évoqué plein de choses et surtout en espérant que vous allez nous dire ce que ça vous avait évoqué. Alors il y a plein de façons de nous contacter. Il y a une adresse mail. Il y a des commentaires possibles, il y a des commentaires sur Facebook. Vous pouvez aussi m'insulter sur Twitter ou me dire que j'ai raison. Vous pouvez aussi insulter Juliette ou lui dire qu'elle a raison ou lui dire que franchement, elle assure bien de supporter comment je parle trop. En tout cas, j'espère que ce n'est que le premier chapitre d'une longue aventure et qu'on parlera de nombreuses choses qui nous intéressent et on espère vous intéressent. Et on vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée. This is a new song.